Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Des bonnes choses qui font aussi dialoguer les cuisines grâce à la présence du chef Maurice Sacco qu'on retrouvera comme chaque semaine à 12h25 pour sa chronique. Maurice Sacco, bonjour.
Bonjour Caroline.
De quoi allez-vous nous parler tout à l'heure?
De pommes de terre.
Avant cela, nous recevons un chef aussi discret et authentique qu'engagé, à la fois grande gueule et grand timide, comme il le dit lui-même, qui ne fait pas dans les esbroufes et cherche plus à être juste qu'à être vu. Il est à la tête de deux restaurants, l'un dans Paris, l'autre à Vincennes, tous deux auréolés d'une étoile Michelin depuis 2014 et 2019. Et il a décidé, par un geste à la fois économique et militant, de proposer des menus à des tarifs abordables par rapport à ce qui se pratique désormais chez ses pairs. Son menu déjeuner est depuis novembre 2025 le plus accessible des étoilés de la capitale. De quoi reposer la question de la viabilité économique et culturelle du modèle gastronomique français et de cet art de bien manger pour tous et toutes à un moment où les clients désertent les salles et où les restaurants sont nombreux à fermer. Jacques Héribaud, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour Maurice.
Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes le chef des restaurants L'Ours à Vincennes et Qui plume la lune à Paris dans le 11e. Avant de parler de modèle économique, on va pas mettre les pieds dans le plat tout de suite. On voudrait d'abord vous connaître un petit peu, Jacques Héribaud. Qu'est-ce qui a fait de vous un cuisinier déjà?
Ce qui a fait de moi un cuisinier, c'est que je suis parti... Depuis très jeune, mon père avait une ferme.
En Bretagne.
On a aussi, avec la ferme, mon père était marchand de fruits et légumes, donc je faisais les marchés avec lui tout petit, dès à 6-7 ans, et famille nombreuse. Donc la cuisine, je suis tombé dedans de force, parce qu'il fallait faire à manger pour 7 enfants, puisqu'on était 7 enfants, les parents, les grands-parents et les voisins. Donc ça faisait des grandes tablées de 10-12 personnes, et il faut faire à manger. Donc chez nous, il y a deux gazinières, et à la ferme, on tuait deux poulets, on mettait les poulets dans le four, et on mettait tout. Là, je vois en ce moment, là, je pense à un truc, parce que je revois l'image du poulet avec la tête, les pattes et tout, on mangeait tout. Les pattes pour faire un bouillon, ou même croustillante comme ça, la tête, le cou, enfin la cervelle du poulet, on mangeait tout. Et donc je suis tombé dedans tout petit comme ça.
Tombé dedans de force, et vous vous dites, à un moment, c'est devenu un choix, un plaisir.
Une passion, ouais. Mais moi, je voulais être pâtissier-boulanger, moi. Je voulais être pâtissier-boulanger, c'était ça mon truc. Donc moi, je prenais à la maison des grosses betteraves à vaches et je les taillais dedans en pensant que c'était des gâteaux. Et enfin bref, je cuisinais, quoi. Je pâtissais, je boulangeais.
Après, vous avez fait vos armes, Jacques Héribaud, à droite, à gauche, en France, au Japon.
Vous avez travaillé aussi en Italie, ouais, en France.
Absolument, c'est pour ça que je dis à droite, à gauche. Vous avez ouvert votre premier restaurant à 40 ans. Ça veut dire que vous, c'est très vieux pour vous. Vous avez attendu d'être prêt.
C'est comme faire des enfants. J'aurais dû faire des enfants plus tôt aussi. Mais oui, c'est très vieux, 40 ans. Mais en même temps, c'était ma maturité. J'avais un parcours qu'il fallait, où il fallait que je passe par un apprentissage dans des trois étoiles, dans des restaurants étoilés, dans des bistrots lyonnais, dans des cuisines chinoises, cuisine africaine. J'ai essayé un peu tout, quoi. Je voulais tout connaître. Je voulais tout essayer. Et à 25 ans, je trouvais que j'étais déjà vieux. Donc, comme j'ai commencé à cuisiner à 14 ans, je voulais toucher à tout. Je me suis mis à 25 ans dans un restaurant, c'est un bistrot lyonnais. Je voulais connaître comment on fait le saucisson lyonnais, le saucisson pistaché, la tête de veau, etc. ou le tablier de sapeur. Je voulais savoir ça. Il faut toucher. Moi, j'ai besoin de toucher et de savoir.
Ce restaurant que vous avez ouvert, c'est Qui plume la lune, rue Amelot à Paris dans le 11e, en 2010, qui a reçu une étoile Michelin en 2014, que vous avez toujours. Et puis, 4 ans plus tard, vous avez ouvert L'Ours à Vincennes, un peu comme votre tanière, L'Ours. Comment vous pensez les deux restaurants?
Qui plume la lune, c'est vraiment un coup de cœur, c'est de l'amour. En plus, je l'ai appelé Qui plume la lune parce que c'est un film à la base de Christine Carrière, qui a été très peu vu et que j'adore. Christine Carrière, je te fais un coucou, je t'aime. Et qui est devenue la marraine du restaurant. Et c'était un film triste, donc un peu loufoque, mais je m'étais juré d'appeler mon restaurant Qui plume la lune, justement pour la poésie, pour ce film qui m'a touché quand j'ai 10 ans avant.
Et L'Ours?
Et L'Ours, pareil, c'est une histoire, parce que moi, là, j'ai la barbe un peu taillée, mais là, normalement, j'ai une grosse barbe, je grogne beaucoup. Et Vincennes, c'est une histoire d'amour avec ma femme, puisque ma femme est de Vincennes. Et Vincennes, pour moi, c'est le zoo de Vincennes, c'est le bois de Vincennes, c'est le château de Vincennes. Et je voulais un truc brut, plus brut. Et là, si je veux ouvrir un troisième restaurant bientôt, je le ferai encore plus brut. Je veux aller à l'essentiel, c'est-à-dire 3 mets dans l'assiette, 3 saveurs, et des trucs très bruts, aller chercher moi-même dans le jardin, avoir des producteurs en direct à qui je sers la pince tous les matins. J'en ai marre d'avoir trop d'intermédiaires autour de tout ça.
Ce restaurant, l'Ours, qui a reçu une étoile Michelin en 2019, à l'époque, dans le Val-de-Marne, c'était le seul étoilé aujourd'hui encore ?
C'est toujours le seul étoilé. On a eu Jean Chauvel pendant très longtemps et Gérard Royan avant lui au Magnolia, au Pérou-sur-Marne, qui ont eu pendant chacun 18 ans une étoile Michelin. Et ils sont partis tous les deux. Il y en a un qui est à la retraite et l'autre qui est en Bretagne, Jean Chauvel. Donc, le seul restaurant étoilé. Ouais. C'est très bizarre. Ouais.
Vous parliez, Jacques Ribaud, de votre environnement familial, de vos origines, de votre enfance en Bretagne avec votre ferme familiale maraîchère. Quels sont, en cuisine cette fois, vos maîtres à penser ? Quels sont ceux qui, pour vous, ont énormément compté dans l'apprentissage de la cuisine ?
Alors moi j'ai rencontré chez Taïwan un monsieur qui était le chef, qui s'appelait Philippe Legendre, qui était d'une rigueur incroyable. J'ai travaillé cuit quelques mois, je suis pas resté très longtemps parce que moi côté armée et tout ça me plaisait pas. Moi j'ai besoin de liberté, je suis un peu un électron libre. Et vu ma vie personnelle, je pouvais pas supporter trop qu'on me mette dans un cadre et qu'on m'enferme. Mais Philippe Legendre m'a appris, oui, quand je travaillais cuit, j'avais acheté des couteaux tout neufs pour travailler cuit. Je me suis coupé les mains pendant les deux premiers mois, j'avais plus de doigts, quoi. J'avais des pansements partout. Je tremblais, je faisais de la panoufle, je me rappelle d'agneau, et je me suis taillé les mains partout. Donc Philippe Legendre a compté énormément pour moi. Et ensuite, j'ai rencontré un autre monsieur qui s'appelle Monsieur Pierre Hermé, avec qui j'ai travaillé pratiquement 3 ans en pâtisserie aussi avec lui. Et ça m'a apaisé, ça m'a adouci. Et Monsieur Hermé, pour moi, c'est un dieu vivant.
Il y en a un autre que vous considérez, je crois, comme un dieu vivant, comme une légende, qui est mort en 2024. Celui qui a révolutionné la gastronomie française, précurseur de la cuisine saine et bonne. On l'écoute.
La cuisine, je vois ça comme la fête. Il faut que ça reste la fête. Il faut que ça soit quelque chose d'exceptionnel. Il faut que la cuisine soit des choses à sensation. C'est pour ça que j'aime bien faire la cuisine. Je voudrais imaginer des salades qui soient fraîches comme des rires d'enfants, des poissons brillants et lourds d'odeur de pêche interdite, des volailles parfumées comme des déjeuners sur l'herbe de mon enfance. Pour moi, c'est tout ça, la cuisine.
Pour vous aussi, pour Michel Guérard, extrait de La Grande Cocotte sur TF1 en 1976, là, qu'on entendait, c'était donc Michel Guérard, poète, hein. Pour vous aussi,
Michel Guérard, j'ai une petite anecdote, je l'ai rencontré pour mes 50 ans.
En 2020.
Ce monsieur, on était dans son hôtel et à 19h, le téléphone sonne dans la chambre et c'est son hôtesse qui m'appelle et qui dit, Monsieur Ribaud, vous êtes là, c'est votre anniversaire et Monsieur Guérard aimerait vous recevoir à 18h30, 19h dans son salon privé pour prendre l'apéritif avec vous. Et alors là, moi, et du coup, on arrivait bien sûr à 18h30, et à 21h30, on était encore en train de prendre l'apéritif, il m'a fait du foie gras, il m'a raconté tout son parcours extraordinaire, et c'est un monsieur d'une humilité, d'une intelligence, d'une culture, un érudit, quoi, j'étais fou de joie.
Et c'était aussi un des chefs qui avait à cœur de démocratiser la gastronomie. Alors, c'est la question que je voulais vous poser, Jacques Ribaud, puisque depuis quelques mois maintenant, vous proposez dans votre restaurant du 11e arrondissement de Paris un menu déjeuner à 45 euros. Alors, vous n'êtes pas le seul. Il y a Auguste dans le 7e arrondissement, il y a The Kitchen Gallery dans le 6e ou Anona dans le 17e qui propose des menus déjeuner pas trop cher, là où habituellement à Paris, le ticket moyen d'un étoilé frôle plutôt les 100 euros. Bien sûr, en région, c'est moins cher. On a 39 euros à la Belle de Mars à Marseille, 38 euros au Diade à Massillac, 37 euros chez Omija à Nantes, 29,90 euros au Mascaret à Blainville-sur-Mer. Il y a d'autres initiatives, bien entendu, similaires. Mais malgré tout, c'est encore un geste quasi isolé, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a, et d'ailleurs depuis février 2026, vous proposez aussi un menu dîner à l'Ours à 90 euros. Donc, qu'est-ce qui a présidé à ce choix-là maintenant ?
Il faut pas se leurrer. En ce moment, il y a bien sûr la conjoncture actuelle qui est très mauvaise. Les gens n'ont plus de sous et font très attention. On ne sait pas quelles sauces vont être mangées à l'international. La politique, ça chauffe quand même de tous les côtés. On n'a pas le moral. Les Français n'ont pas le moral. Et donc, il faut faire revenir des clients dans nos restaurants. Ça suffit pas d'être un bon cuisinier. Ça suffit pas de. C'est l'argent quand même. L'argent est la base de la dépense. Donc le menu à 45, pour moi, c'était évident qu'il fallait le mettre le midi, en tout cas, qui plume la lune, et le soir à 90 à l'Ours, pour faire vraiment plaisir aux clients. Et en plus, on ne ment pas, c'est-à-dire, pour ce que vous disiez tout à l'heure, les amuse-bouches sont les mêmes, les produits sont les mêmes. Je vais pas mettre, parce que c'est un 45, des produits moins nobles. C'est-à-dire la volaille,
c'est juste qu'il y en a un peu moins.
Non, pas du... Bah, ce soir, amuse-bouche, entrée plat, ou amuse-bouche plat dessert et milliardise bien sûr, mais c'est, je voulais récupérer une clientèle. Sur ce menu, je gagne pas d'argent, hein. Mais ce qui va me rapporter de l'argent, entre guillemets, c'est vraiment le verre de vin, l'apéritif, le petit café qu'on prend, même la bouteille d'eau, etc. C'est les à côté qui vont faire que ce menu sera valable. Et surtout, c'est que les gens se disent après, bah tiens, on va revenir pour l'anniversaire de ma fille, pour le bac de la petite fille, pour voilà, des événements. Et après, ces gens-là, ils vont revenir, ils vont peut-être prendre le menu à 70, 110 le soir, ou le 150.
Oui, parce que vous avez une gamme assez variée de prix de menus dans les deux restaurants.
Mettons, ouais, ça va de 70 à 70, 110, 150 et 250, le grand menu exception. Mais les gens n'ont plus aussi le temps. C'est pour ça qu'à l'ours, mettons, moi je voulais absolument mettre un 90 parce que je vois plein de gens que j'aime beaucoup et des clients qui ne veulent pas prendre 5-6 plats le soir. Même sur le grand menu, c'est 9 plats. Alors, le soir, les gens qui vont régulièrement au restaurant, bah, une entrée, un plat à dessert, ça suffit. Voilà, et puis on veut arriver à 19h et partir à 21h pour pas se coucher trop tard. Tout le monde travaille le lendemain. Et donc ça, c'est important aussi de pas avoir des menus à rallonge.
Oui, vous dire, c'est aussi adapté au rythme, adapté au mode de vie urbain d'aujourd'hui.
Et puis là, nous, on a une demande aussi, surtout à Paris. On voit là, c'est un peu sur le modèle anglais. Les gens viennent à 18h, 18h30, demandent déjà pour manger le soir, pour dîner. Ça, c'est tout à fait nouveau aussi. En ce moment, ça change. Les menus du midi, les gens, ils sautent le déjeuner et ils mangent plus tôt le soir.
Mais vous, Jacques Ribaud, vous dites que vous n'avez pas oublié d'où vous venez, que d'ailleurs, enfant, vous n'alliez pas au restaurant, que aller au restaurant, c'était y aller parce qu'on avait les sous, mais que quand vous aviez des sous, bah, vous faisiez le marché, vous cuisiniez à la maison. Pourquoi, à ce moment-là, vous n'avez pas choisi d'être encore plus radical dans votre geste, c'est-à-dire d'ouvrir un restaurant qui ne soit pas un gastronomique et qui, ça va un bistrot, un restaurant plus grand, plus simple, mais moins cher.
Si, vous savez, j'ai ouvert une brasserie il n'y a pas très longtemps dans l'Est parisien. Moi, je crois profondément à l'Est parisien, Noisy-Grand, Bry-sur-Marne, tout ce côté-là que j'adore. Là, je me suis planté, quoi. Je me suis planté vraiment, puisque les trois premières années, on va dire, ça a très très bien marché. Après, moi, je suis chef de cuisine, en fait. Et là, je suis devenu chef d'entreprise. Et moi, la gestion, c'est pas mon truc. Je peux pas dire que je suis pas bon gestionnaire. Après, je me suis entouré de personnes aussi, mais ça a pas marché. Enfin, ça a marché les trois premières années. Et après, j'ai dit, on stoppe.
Alors que là, c'est un modèle viable, à votre avis, ce que vous êtes en train de proposer avec ces menus un peu moins chers, plus abordables. Qui plume la lune, je crois que vous avez commencé à l'automne 2025. 4 mois plus tard, quel est le bilan? C'est un succès? Les gens reviennent dans vos restaurants?
Je remercie, le public est là. Et moi, je suis toujours très touché quand je vois... l'autre jour, j'avais deux messieurs qui étaient là, 85 et 87 ans. Et le monsieur, à la fin du repas, il est venu me voir. Il m'a dit, monsieur Ribaud, vous savez, c'est la première fois qu'on fait un restaurant étoilé. C'est pour les 87 ans de mon frère. Et là, moi, j'étais touché. Je me suis dit, ils ont 85 et 87 ans. Ils viennent fêter 2 menus à 45. Ils ont pris un verre de vin chacun, c'est tout. Mais c'est très bien. Mais quel bonheur pour moi. Moi, vous voyez, ça me donne la chair de poule, là. Hein. Parce que moi, je fais ce métier-là pour ça, pour être aimé. Donc, que des gens me donnent de l'amour comme ça, ça me touche plus qu'un menu à 250 et des gens qui en laissent la moitié dans l'assiette parce qu'ils vont tous les jours récents et qu'ils s'en foutent, quoi. Donc, c'est un respect. Moi, j'aime cette clientèle-là. Moi, j'ai fait de cuisinier, pas pour, moi, je voulais pas m'installer dans les beaux quartiers, 7e, 16e, etc. Ça m'intéressait pas. C'est pour ça que j'ai voulu aller dans le 11e, il y a 16 ans de ça maintenant. À l'époque, le 11e, c'était pas la mode, hein. Maintenant, c'est la mode, c'est facile, mais à l'époque, j'étais le seul étoilé. Il y a eu Septime qui a eu l'étoile aussi la même année que moi, je crois, en 2014. Et c'est tout. On était des précurseurs. Mais moi, j'ai fait la cuisine pour, c'est pas pour les gens riches. Moi, je fais la cuisine pas pour les pauvres non plus, mais pour les gens normaux, quoi. Voilà. C'est-à-dire nous.
Il y a certaines critiques qui disent, à propos de ces gastronomies, ces restaurants, disons, étoilés, qui proposent des prix plus abordables, qui pensent que vous dénaturez, voire vous dévalorisez la gastronomie en faisant ça. Certains comparent la haute gastronomie à la haute couture. C'est de l'art, donc mettre un menu aussi peu cher, en tous les cas, par rapport aux étoilés d'aujourd'hui, c'est dévaloriser la gastronomie. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je suis pas d'accord du tout. Je pense que les clients, maintenant, sont pas dupes et ils ont envie de se faire plaisir aussi avec un menu 45. Même moi, en tant que chef de cuisine, je ne vais pas dans des restaurants tous les mois claquer 500 euros. Je fais pas ça. J'achète, même moi, je n'achète pas une bouteille de vin au-dessus de 70 euros. Je fais pas. Donc, non, les gens, ils ont envie d'un menu à 45 parce que il faut être dans la conjoncture actuelle, il faut être dans le monde actuel. Le monde actuel va mal. Un menu à 45, c'est réconfortant. On va au restaurant, on est heureux, on oublie pendant 2 heures ses emmerdes. Et voilà, et à 45, c'est bien.
C'est aussi la
question. Et venez à 45,
c'est aussi la question. Les gens viennent.
On est très heureux.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Maury?
Bah, je pense que le sujet du prix, il est primordial. Et après, les gens affectent aussi leurs dépenses par rapport à leurs envies, leurs besoins. Et donc, nous, on a des clients qui pourraient se payer un restaurant gastronomique, mais qui vont aller au street food parce qu'ils ont envie d'aller au street food. Et inversement, d'autres personnes, comme Jackie le disait, dont c'est le premier étoilé à 70 ans et qui se font vraiment un plaisir. Et c'est aussi à ça que ça sert ces lieux-là. C'est pas juste pour faire du luxe. C'est aussi proposer des moments d'exception pour les gens. Et donc, quand les gens ont envie de faire cette dépense et se sentent totalement investis, y a plus de sujet du prix, on n'est jamais trop cher, quoi. Donc, le sujet, c'est être au prix juste, mais le sujet de trop cher ou pas assez cher, c'est souvent libre à suggestion, quoi, on va dire.
Jacques Héribou?
Oui, non, je suis entièrement d'accord avec Maury. Il faut absolument le prix juste, en fait. C'est pas être volé. C'est-à-dire, en plus, il y a un truc aussi qu'oublient les cuisiniers, c'est que moi, j'essaie d'inculquer ça, enfin, de mettre ça, en tout cas, de transmettre à mes deux chefs exécutifs dans chaque restaurant. C'est une vraie entité. Il faut donner de l'amour. Si mon restaurant s'appelle Lourdes, c'est parce que c'est moi. J'ai mis toutes mes tripes et mon cœur. Qui plume la lune, j'ai mis tout mon argent. Moi, j'ai vendu ma maison pour avoir Qui plume la lune. Donc, c'était soit avoir une maison, soit avoir un restaurant. Moi, je veux un restaurant parce que c'est mon lieu de vie. Puisque je passe plus de temps dans mon restaurant que dans mes maisons, dans ma maison, dans mon appart. Mais voilà, moi j'ai pas de maison, moi je suis en location, moi c'est mes restaurants, moi c'est ma vie, j'ai tout donné. Moi je respire cuisine, je mange cuisine, c'est mon oxygène. Je peux pas vivre, je suis à fleur de peau. Moi c'est tout ce que j'aime, c'est la relation cuisine-client et toujours travailler des produits. Le matin arriver à un bon ton de 30 kilos, le travailler, je suis heureux comme tout. Ça, je suis dingue.
Bah, puisque vous respirez cuisine et que vous mangez cuisine, on va essayer de plonger avec vous dans votre assiette.
Une serveuse dépose sur chaque table un petit pain rond qui tient de la brioche et du bretzel, doré à souhait, au parfum légèrement sucré. À côté, une noisette de beurre au yuzu d'un jaune pâle qu'on tartine du bout du couteau. Le gras, le sel, l'agrume, l'accord est immédiat. Dans le calme suspendu du service, trois amuse-bouches arrivent dans le même temps. D'abord, une petite feuille de mertensia, cette herbe à l'étrange saveur d'huître, parcouru d'un gel de vinaigre de riz sakura, infusé aux feuilles de cerisier. Le végétal et le floral, unis dans un même éclat. Puis un œuf cocotte à l'ail noir et aux champignons, son jaune à peine pris sous un voile de siphon mousseux, la texture d'un nuage, le goût d'une terre humide et chaude. Enfin, une tartelette aux choux-fleurs et vieux parmesan, croustillante, pleine de profondeur, où la note lactée du fromage tire vers le caramel. Trois bouchées, trois gestes précis et déjà la démonstration d'un condensé de savoir-faire.
Voilà un extrait de ce déjeuner, menu du déjeuner à 45 euros à Qui plume la lune, que nous avons tiré d'un article de Léo Bourdin dans Le Monde qui était allé déjeuner dans votre restaurant, Jacques Héribeau. Jacques Héribeau, vous êtes notre invité dans Les Bonnes Choses ce midi. Comment vous qualifiez votre cuisine? C'est une cuisine d'instinct, c'est une cuisine poétique. Ouais. En tout cas, c'est une cuisine sans carte.
Bah, c'est surtout quand, là, je sais pas, on voit pas mes mains, mais moi, j'ai plutôt des mains de bûcheron. Les gens sont toujours étonnés quand ils me voient, surtout au début, sortir ma tête, parce qu'ils pensaient que c'était une femme en cuisine. Et moi, ce qui me plaît, c'est la cuisine d'instinct. C'est la cuisine par rapport à la météo, c'est la cuisine par rapport aux produits. Moi, j'adore à midi et demi arriver en cuisine. Des fois, quand j'arrive dans un de mes restaurants, j'arrive à midi et demi, je reprends tout le menu, je change tout. Je dis non, là, ça va pas.
Oula, l'équipe, ça doit...
Là, même le sommelier, tout le monde, ça chauffe pour tout le monde. Mais au moins, je mets tout le monde sur le feu, quoi. Tout le monde est là, clac, clac, clac. C'est bien d'avoir cette pression, mais une bonne pression gentille, quoi. Je déteste si on fait le même menu pendant 2 mois. Oh là là, le train-train, la routine, non, c'est pas mon truc. La cuisine, ça doit être, ouais, instinctif. C'est la météo, comme je disais tout à l'heure. Là, il fait beau, on a envie de manger, je sais pas, des radis, une mousse de radis, un truc. Voilà, on a envie d'aller dans autre chose. Il fait froid, on a envie d'un bouillon chaud.
Votre cuisine, elle est à la fois inspirée des racines, donc de l'enfance, et des racines au sens plein du terme d'ailleurs,
beaucoup de racines, ouais.
Dans l'enfance, parce qu'il y a beaucoup de Bretagne dans vos plats, et puis il y a quand même un peu d'Asie, il y a du Japon aussi, et il y a des herbes fraîches, il y a du lait ribot.
Ouais, le lait ribot, moi j'ai été élevé à ça, donc j'adore le lait ribot, hein. C'est une recette que j'avais fait il y a 25 ans au Japon, c'est juste du lait ribot émulsionné justement. Quelques glaçons dedans, un tout petit peu de crème liquide, bien émulsionné. On récupère juste la mousse qu'on pose comme ça sur un sorbet citron, un vrai beau sorbet citron. Et on pose délicatement plusieurs cuillères à soupe de lait ribot dessus. Ça va créer une coque dessus. Là-dessus, je pose un petit macaron à l'azuki. quelques petites pousses de coriandre, un zeste de citron confit. Et ça, c'est digestif. Ça fait partie des trois desserts qu'on va vous amener. Et c'est pour vraiment, voilà, ça vous remet en place avant de repartir, quoi.
Vous avez d'autres produits fétiches, j'allais dire chez Tiff, mais
bah oui, j'aime bien. Mettons, en ce moment, on travaille aussi le topinambour. Topinambour que j'adore, ou le panais, etc. Mais le topinambour, petite recette comme ça, facile. Bah, vous les cuisez, vous les épluchez, hein, vous les citronnez un peu, vous les cuisez tranquille à l'eau. Quand ils sont cuits, vous les retirez. Vous les passez au thermomix, au mixeur. Vous ajoutez de la crème liquide. Moi, j'aime bien mettre dedans du chocolat blanc.
Hein. Ah, vous faites des
Ah là, c'est pour un dessert. Moi, j'aime bien faire un dessert.
Des assortiments audacieux.
Un petit chocolat blanc dedans. Vous faites fondre avec. Vous mélangez. Vous rajoutez une boule de sorbet coco. Et voilà, vous êtes au paradis.
Mais alors, comme votre cuisine, Jackie Ribaud, est une cuisine d'instinct qui, finalement, s'inspire de votre humeur, de la météo, des produits que vous trouvez au marché, de la saison, comment naît une recette? Par exemple, alors, les assortiments que vous faites, là,
Dernièrement, j'ai fait un truc sans le faire exprès. Enfin, j'ai fait deux trucs sans le faire exprès. C'est un peu comme les sortatins, quoi. On fait des photos pour les réseaux et je fais de la lotte. Je fais une lotte pochée. Moi, j'adore cuire mes poissons à la minute et j'adore pocher les poissons.
Là, faut que les auditeurs et les auditrices tendent l'oreille parce que c'est la recette que vous nous avez offert pour le site. Donc, voyons
voir. Donc, là, j'adore pocher. Donc, je poche des petits morceaux de la lotte que j'ai pré-coupés qui font 50 grammes. Je la poche, allez, 2-3 minutes à eau frémissante. Et je la retire. Et là, je mets juste un filet d'huile, sel, poivre. Et cette lotte, en fait, je l'ai trempée dans de l'encre de sèche. L'encre de sèche qui est mélangée à 50% avec de la crème liquide. Enfin, pas 50%, 30% de crème liquide. Et je l'ai laissée dedans. Et ça, après, on le sort sur un risotto pour la recette que je vous ai donnée. Mais là, dans l'idée, c'est que cette recette, je l'ai faite. Et qu'une heure après, la lotte, j'avais fait plein de plats. Donc, il y avait un bazar dans la cuisine, puisque je fais ça lundi quand je suis tout seul. Mais j'ai mis un boxon, j'avais pas de plongeur, rien du tout. Pas de commis. J'étais tout seul, donc j'ai fait la plonge après. Hein. Et j'ai tout laissé propre pour les gars pour le mardi matin. Mais du coup, je me retrouve avec le morceau de lotte. Une heure après, et avec ma femme et ma community manager Lorraine, elles goûtent la lotte. Elles me font « Jackie, faut que tu goûtes ça ». Et la lotte, au fait, elle est restée une heure dehors, trempée dans l'encre de sèche. Et du coup, c'est devenu un plat. Et je me suis dit mais c'est super bon, en fait, froid comme ça. Froid, hein. C'est-à-dire l'encre de sèche a créé une coque autour. C'est rentré un peu dans la lotte. Et je me suis dit, ça, il faut que je le mette dès qu'il va faire beau. Là, je vais mettre ce petit poisson comme ça juste, peut-être en amuse-bouche, peut-être en deuxième plat. Mais voilà, c'est comme ça, les recettes viennent. Ou j'en ai une autre, hein, avec de l'encre de sèche, hein. Enfin, pas de l'encre de sèche,
il y a
quand même
beaucoup de poissons, de fruits de mer.
Moi, je suis breton.
On sent la Bretagne, pas trop loin.
Moi, j'aurais presque arrêté la viande, mais j'ai du mal quand même. Sur, quand vous avez 7 plats, j'aime bien avoir quand même une viande sur 7 plats. Il faut un végétal, un bouillon. Enfin, on essaye de mixer bien le truc. Ça, c'est aussi ça qui est bien à doser, de mettre des plats au bon endroit.
Quel est le plat pour vous, Jackie Ribaud, qui permettrait de se mettre à la cuisine pour apprendre à la maison? Un plat que vous aimez faire et que vous conseilleriez quand on commence?
Quand on commence, je sais pas, commencer par des plats, je sais pas, j'irais simplement, mettons, un poulet rôti, tout simplement.
Le poulet du dimanche.
Mais oui, le poulet du dimanche, parce que la plupart, moi, ce que je vois dans tous les gens que je côtoie, les clients qui viennent, c'est, là, j'ai un gamin de 8 ans qui vient me voir et qui veut déjà faire de la cuisine et qui est venu déjà pendant une heure ou deux en cuisine avec nous, mais mettons, oui, démarrer par le plat du dimanche. C'est-à-dire le plat réconfortant que vous allez faire pour les parents ou la famille, et déjà, ils vont pas trop vous juger. Si c'est raté, c'est pas trop grave, parce qu'ils vont le manger quand même. Et de se faire plaisir, oui, parce que les gens ne cuisinent plus. En fait, les gens ont oublié. Moi, quand je discute aussi, ils se rendent plus compte que c'est long, la cuisine. Moi, j'aime bien être là le matin à 8h et faire la cuisine. C'est long, faire un fond de veau, faire un fumet de poisson, désosser une volaille. Mais oui, je conseillerais de démarrer par des plats de famille. Des lasagnes, un poulet rôti, c'est bien.
Quel est pour vous l'ustensile indispensable?
Moi, j'aime bien mon couteau d'office. Moi, pour moi, l'ustensile indispensable, je peux tout faire avec un couteau d'office. Moi, souvent, les gars, ils arrivent, ils ont des mallettes, ils ont des couteaux, on dirait des chirurgiens, quoi. Les mecs, ils ont opéré par temps de guerre, quoi. Ils ont des mallettes, ils sont à 3000 euros, les couteaux. Enfin, 3000 euros, un couteau. Moi, j'ai deux couteaux, voilà. Un office et un émasseur. Et avec ça, je me débrouille.
Et sinon, Jackie Ribaud, le soir, qu'est-ce que vous faites à manger?
Chez moi?
Ouais.
Chez moi, c'est coquillettes beurre sauce soja.
Merci beaucoup, Jackie Ribaud, chef de l'Ours à Vincennes, qui propose un menu en semaine à 90 euros, et chef de Qui Plume la Lune à Paris, dans le 11e, qui propose désormais, toute la semaine d'ailleurs, un menu à 45 euros.
Toute la semaine,
pour
le samedi midi aussi.
Déjeuner le samedi midi aussi. Allez, restez avec nous pour écouter la chronique de Jackie, de Maurice Acco. La pomme de terre, donc, Maurice.
Oui, Caroline, aujourd'hui, je voulais raconter l'histoire de la pomme de terre. Donc, un produit populaire au premier degré. Et c'est un aliment qui est accessible économiquement et qui plaît à tout le monde, normalement. La pomme de terre est originaire d'Amérique du Sud. Les premières traces de ce tubercule datent de 12 000 avant notre ère. Elles ont été retrouvées sur le site du Monte Verde au Chili. La domestication de la pomme de terre date de 8000 ans avant Jésus-Christ environ, sur la cordillère des Andes, au Pérou et en Bolivie. La première mention connue de la pomme de terre est celle d'un compagnon du conquistador espagnol, Francisco Pizarro. Ils auraient ensuite envoyé les premiers pieds de pomme de terre en Europe au roi d'Espagne, qui en envoya à son tour à Rome, au pape, qui en développe la culture pour ensuite la diffuser via la Belgique et à toute l'Europe. Le nom pomme de terre est assez récent, car le nom espagnol patata, traduit en français en patate, provient d'une confusion entre les noms donnés par les populations autochtones à la pomme de terre, nommée papa, et la patate douce, nommée batata. En 1600, on parle de pomme de terre sous le nom de cartoufle, car les Italiens appelaient tartufoli, les Allemands tartufel, puis kartoffel, les Savoyards les appelaient tartiflette, d'où le célèbre plat tartiflette. Un très long programme. La pomme de terre n'est pas populaire à ses débuts en France. On la voit comme un produit pauvre, insipide et qui transmettait des maladies. C'est Antoine-Augustin Parmentier qui va populariser la pomme de terre après avoir vu des soldats prussiens se nourrissant de pommes de terre. Il en tire la conviction que ce produit peut nourrir efficacement une population affamée. Il entra ensuite dans la légende grâce à un coup de génie publicitaire. En 1788, Parmentier a l'idée de faire planter des pommes de terre à Paris, dans la plaine des Sablons, actuelle avenue de la Grande Armée, et de les faire garder par des soldats en armes le jour. Son plan fonctionne à merveille. La garde étant relevée la nuit, de nombreux citoyens curieux de découvrir ce bien précieux sous bonne garde viennent chipper quelques tubercules pour les planter chez eux. Il enfonça le clou en organisant des dîners mondains où étaient conviés les grands noms de l'époque, afin de leur faire découvrir ce produit nouveau. On peut saluer tous les personnages de cette longue chaîne, car sans eux, pas de pommes soufflées, purées ou de frites. Maintenant, vous savez tout sur ce produit qui accompagne notre quotidien, des plus hautes tables gastronomiques aux repas les plus simples.
Et alors, pas de recette aujourd'hui?
Non, pas de recette aujourd'hui, je voulais vous raconter une petite histoire.
On change un peu. Un dernier mot pour annoncer un cycle de conférences qu'organise le MK2 Institut à Paris sur notre alimentation comme fait de l'histoire et fait de société. Un cycle de 4 conférences fait par le journaliste et auteur culinaire Aitor Alfonso. Première séance le 10 février sur les grands systèmes politiques à table. Ça sera au MK2 Gambetta à 19h. Infos et réservations sur notre page où seront également toutes les autres informations, les adresses, les références et la recette, bien entendu, de Jackie Ribaud. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application Radio France. Les bonnes choses ont été préparées avec Léa Varin, Jean-Christophe Francis à la réalisation, à la technique Ludovic Auger. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de France Culture.